copain qui se tenait là, les bras croisés. Alors lui, il faisait rien du tout. Et il la regardait se débrouiller toute seule. Alors la seule chose qu'il faisait, c'était, en fait, il lui disait avec un ton vraiment agacé, « Non mais détends-toi là, détends-toi !» Alors moi, je sais pas toi ce que t'en penses, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, quand on me dit de me détendre ou de me calmer, alors là, ça m'énerve encore plus. Et alors surtout, moi je trouve ces quelques mots, rien qu'avec ça, on peut imaginer vraiment, il y a une espèce de fracture dans le couple, parce que vraiment, ce ton un petit peu sec, et on peut imaginer que vraiment, il y avait... deux façons d'agir différentes dans le couple, deux visions différentes de ce moment-là. Alors moi, bien sûr, bon, je connais pas la situation de ce couple, mais ça me faisait penser à ce qu'un auteur américain qui s'appelle Jason Pardeen disait. Il est assez connu, il fait plein de vidéos sur les réseaux sociaux, il partage un petit peu ses réflexions, moi je vous le recommande, il est assez chouette. Mais donc il a parlé justement de charge mentale et il disait, c'est une traduction un petit peu libre on va dire, il disait derrière chaque personne insouciante qui dit tout le temps « détends-toi, arrête de stresser, de toute façon à la fin tout finit toujours par s'arranger », il y a une personne, alors soit un conjoint, une conjointe, un collègue, qui est extrêmement anxieuse, extrêmement méticuleuse, qui anticipe tout, qui pense à tout, et qui travaille en coulisses depuis des années justement pour s'assurer que tout finisse toujours par s'arranger. Et la charge mentale, ben c'est un peu ça.
Du coup, l'expression charge mentale, c'est vrai qu'on entend ça partout depuis quelques années.
Oui, c'est vrai. Voilà.
Mais alors au fond, c'est, enfin, si j'ai bien compris, la charge mentale, c'est de répartir les tâches ménagères dans le couple, c'est ça, non?
Non, pas du tout. Désolée de te le de contredire.
C'est pas que ça, alors, du coup.
Non, c'est pas que ça. Justement, c'est souvent réduit à ça. Parce que c'est un sujet qui est assez mal compris et donc c'est assez considéré comme, c'est souvent un peu considéré comme accessoire par des personnes qui n'en perçoivent pas bien les enjeux, alors que c'est quelque chose qui peut se révéler très important dans la vie relationnelle et ça peut prendre beaucoup de place. Ça peut même devenir un motif de rupture. Enfin, en tout cas, ça peut être entre guillemets la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Donc, je trouve que ça peut valoir le coup de se pencher sur le sujet. Donc déjà, non, la charge mentale, c'est pas juste bien répartir les tâches ménagères ou qu'elles soient réparties de manière inégale. La charge mentale, comme son nom l'indique, c'est ce qui se passe dans la tête. Donc, il s'agit de savoir qui pense à quoi, qui anticipe, qui planifie, qui gère la vie de couple ou la vie de famille. Donc, c'est un travail totalement invisible et pourtant essentiel. Et lorsqu'il est inégalement réparti dans un couple, quand une personne a l'impression de devoir, entre guillemets, penser à tout et tout gérer, sans pouvoir se reposer sur l'autre une partie du temps, on peut même parler de surcharge mentale. Donc, dans les couples hétérosexuels, ce sont majoritairement les femmes qui se déclarent pénalisées par cette surcharge mentale, mais c'est un problème, bien sûr, qui peut aussi toucher les couples de même genre. Et on peut vraiment parler de surcharge parce que c'est un travail qui n'a pas d'horaire, ça demande de la mémoire, ça demande une attention constante, et donc ça peut générer un véritable épuisement. Et cet épuisement peut être particulièrement exacerbé dans les périodes de fêtes, ce qui peut entraîner des tensions, des conflits qui éclatent, ou bien encore des ressentiments qu'on garde enfouis parce qu'on prend sur soi. On veut pas gâcher la fête pour la famille, pour les enfants, pour les proches, donc on dit rien. Et c'est ça aussi la difficulté des fêtes de fin d'année, en particulier pour les couples avec des enfants. Parce qu'il y a, bon, alors, entre les repas de famille organisés, les cadeaux, les activités, il peut y avoir une énorme pression pour ne pas subir, par exemple, le jugement de la famille étendue qui va venir au repas de famille, pour faire plaisir aux enfants, pour leur offrir des souvenirs magiques, la magie de Noël. Et donc, quand il y a un conjoint qui pense que, oh, ça va, c'est pas la peine de se mettre trop de pression, tandis que l'autre porte vraiment seul le poids de cette pression, ça peut vraiment créer une fracture dans le couple. Il n'y a plus d'empathie, il n'y a plus de communication, et en gros, bah, chaque côté fait des reproches à l'autre côté.
Oui, c'est ça. En fait, je trouve que la charge mentale, en fait, pourquoi on en parle aussi dans l'émission aujourd'hui, c'est parce que ça a un vrai impact sur la santé des personnes et de la personne qui a une charge mentale ou une surcharge mentale. Mais alors, du coup, comment on peut y remédier?
Alors, bah, le problème, c'est que souvent, on va dire la solution. Eh ben, faut que la personne qui gère tout, elle prenne un temps avec son conjoint ou sa conjointe et faire un planning et se répartir les tâches. Mais en fait, ça veut dire qu'une fois encore, c'est cette personne qui va devoir tout gérer et tout manager. Et donc, ce travail va devoir être repris à chaque gros événement, les vacances, la rentrée, etc. Donc, on s'en sort pas, en fait. Il y a toujours encore quelqu'un qui gère et quelqu'un d'autre qui suit. Donc, bah, désolé de le dire, mais je pense que c'est aussi à l'autre conjoint ou conjointe de se bouger et de s'y mettre sans attendre qu'on le drive. Donc, c'est peut-être trop tard, bon, là, pour Noël, mais ça peut être votre résolution 2026. Mais alors, une résolution qu'on tient, hein, pas qu'on lâche au bout d'une semaine. Oui, donc par
ça
exemple...
Ça arrive souvent, oui, du coup.
Bah oui, mais là, bah, le but, c'est... ça peut être de sauver votre vie de couple, ça ouais. peut... En plus, comme tu en as parlé, ça peut avoir un impact sur la santé, ça peut aussi avoir un impact sur la vie sexuelle, etc. En fait, ça peut impacter toutes les sphères de la vie de couple ou la vie, les relations entre couples. Mmh. Donc, par exemple, si vous vivez ensemble et que c'est jamais vous qui faites la cuisine, bon, pourquoi pas, hein, c'est, vous êtes répartis les tâches comme ça, c'est votre conjoint, votre conjointe qui fait la cuisine, bah forcément, tout a été rangé pour arranger cette personne qui fait la cuisine, avec sa logique à elle, avec ses habitudes. Donc si un jour vous vous dites, bon allez, cette fois, pour le repas du réveillon, c'est moi qui cuisine. Mais qu'en fait, vous vous y mettez, mais en fait vous arrêtez pas de demander à votre partenaire, chérie, t'as mis où le mixeur? Chérie, ça fonctionne comment, air fryer? Enfin voilà, si vous arrêtez pas de l'interrompre dans ce qu'elle fait, ou parce qu'elle est en train de se reposer et de tout le temps la solliciter, ou si vous arrêtez pas de pester parce que vous trouvez pas le mixeur justement, vous arrivez pas à faire fonctionner l'air fryer, bah c'est pas la peine en fait. Ça a juste créé des nouvelles tensions et c'est pas un cadeau que vous lui faites. Donc déjà, si vous voulez vraiment vous mettre à la cuisine, bah, vous attendez que votre partenaire ne soit pas présent si possible. Vous faites le tour de la cuisine, vous prenez un petit carnet, vous notez où tout est rangé et comment tout fonctionne. Comme ça, vous serez autonome. Et puis si possible, quand vous cuisinez, bah, vous le faites même quand le conjoint ou la conjointe n'est pas présent. Comme ça, vous n'allez pas tomber dans le piège de toujours aller le ou la solliciter. Et ça veut dire aussi que vous allez devoir anticiper vos besoins, faire vos courses vous-même, etc. Pourquoi pas pour le repas de fête ou pour une autre occasion ou pourquoi pas pour vous y mettre vraiment régulièrement. Mais vous allez prendre conscience de qu'est-ce que ça implique comme charge mentale derrière, comme anticipation, tout prévoir, etc. Donc si vous prenez cette initiative de prendre en charge soit une tâche ménagère ou de partager cette charge, bah, ça inclut aussi la charge mentale, l'anticipation, la planification. Je ne sais pas ce que tu en penses, Florian, en tout cas.
Bah, je trouve que c'est un vrai sujet, du coup, la charge mentale. Après, on n'est pas tous armés, en fait, par rapport à cette charge mentale. On ne réagit pas tous de la même façon, par rapport à notre vie, par rapport à notre éducation aussi. Alors là, je parle plutôt sur un couple de personnes de même genre, du coup. Mais c'est vrai, voilà, on réagit pas de la même façon à la charge mentale ou à la surcharge mentale. Et oui, ça crée un déséquilibre dans le couple, ça crée des tensions. Et je pense que la solution, c'est aussi de pouvoir en parler et de savoir comment l'autre réagit par rapport à un événement qui pourrait provoquer une charge mentale supplémentaire ou une surcharge mentale, parce que du coup, va y a les choses très simples entre guillemets, de tâches ménagères comme on entend et comme ce que j'ai dit tout à l'heure, mais du coup, ce qu'on entend un peu partout. Mais il y a plein d'autres choses, en fait. C'est la gestion de la vie familiale, c'est la gestion de la vie de couple de façon très complète, en fait. Et le moindre petit truc, en fait, peut créer une montagne qu'il faut surmonter. Et surtout si la personne, elle n'est pas armée face à ça, du coup, ça peut devenir un truc absolument...
Ah, ouais, voilà,
insurmontable, que c'est
hors,
ce que je veux dire.
Hors de proportion, ouais, voilà. Mais en fait, finalement, ce qu'on oublie un peu, c'est que le travail domestique ou le travail, enfin les tâches ménagères, etc., ou gérer une vie de couple, gérer une vie de famille, c'est un travail. C'est pas un travail rémunéré, mais c'est un vrai travail. Donc ouais. c'est presque un peu comme gérer une entreprise. Donc gérer une entreprise, bah ça demande du temps, des compétences, un espace mental en fait à prendre. Et donc, il faut le partager, enfin, ça se partage à deux, on peut pas juste se dire on est complémentaires s'il y a un déséquilibre. En tout cas, si on sent qu'il y a un déséquilibre, il faut essayer de rétablir au maximum l'équilibre, parce que sinon, forcément, il va y avoir des tensions qui se créent, ou pire, comme je disais, il y a une des personnes qui va rien dire et qui va subir en silence, comme ça peut arriver dans le monde du travail. Des fois, on n'ose pas le dire, on n'ose pas l'ouvrir, et bah, ça sort d'une autre manière, et c'est pas forcément très sain non plus.
Ça part en burn-out aussi, du coup, parce que
oui, par exemple,
même au sein du couple,
comme dans le monde du travail, ou exactement, voilà. Donc voilà, c'était un petit peu mon avis sur le sujet. Mais si ça vous fait réagir ou si vous avez envie de témoigner, ben n'hésitez pas en tout cas à nous laisser des commentaires sur notre Instagram ONDP Radio G ou nous envoyer des messages par email sur notre adresse mail ondp.radioG@gmail.com. On les lira avec attention, on les partagera aussi dans l'émission parce que ça nous intéresse d'avoir vos avis à vous aussi.
Et en parlant de communication, on a une petite chanson à vous proposer pour la pause musicale de l'émission. Alima, tu peux nous en dire plus sur cette chanson ?
Oui, tout à fait. Alors c'est une chanson, c'est une parodie en fait de chanson qui a été faite par l'humoriste Alex Ramirez. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Alex Ramirez, il s'est fait connaître par ses parodies de chansons de Disney, version cheap un peu, version low cost. Et là en fait, il a fait un spectacle sur scène qui s'appelait Panache, dans lequel il parlait des chansons de R&B et comment dans les chansons de R&B, souvent, ça parle que de conflits, de ruptures, de disputes, etc. Et donc, il disait, moi, je vais prendre le contre-pied, je vais faire une chanson de R&B où les gens se parlent, où le couple dialogue. Et donc, ça s'appelle justement Le Dialogue. C'est une parodie de chansons de R&B. On s'écoute ça tout de suite.
Soirée, repérer, c'est pas le bon mot. Je suis pas un chasseur et t'es pas un animal. Je suis allé te parler, mais tu semblais occupé du coup. Je t'ai laissé tranquille.
Je n'attendrai pas que tu fasses le premier pas. On n'est plus à l'époque de l'amour courtois. Je décide de mon sort, bien envie de te donner un kiss. À part si tu me sors, comment elle va la miss? Évidemment t'es pas puceau, chacun son passé. Si ça peut te rassurer, t'es loin d'être mon coup d'essai. Ne fais pas le coup du bad boy, du bandit de grand chemin. Ni une fille bien, ni une chouin, j'suis juste un être humain.
Y'a pas de remède miracle, faudra tout le temps composer. Mais faut bien que je me la racle sur ce son que je me posais. Pas besoin d'être toxique ou de fouiller ton historique. Si tu te mets à me faire confiance, alors c'est moi qui ai de la chance. Tu me diras c'est quoi les bails, moi je te montrerai mes failles. Je te propose qu'on déchire tout, sans se déchirer entre nous. Envie d'exploser les codes, de faire péter les schémas. On est une team de camé, et notre drogue, c'est le dialogue.
C'est le dialogue.
Ouais, c'est la solution.
Ouais. Oui, le dialogue.
Un climat de confiance et de communication.
C'est le dialogue. Non,
ouais. Ouais.
Oui, le dialogue. Maintenant qu'on est ensemble, j'ai peur que les choses se compliquent.
Aucune raison qu'on tremble, bébé. T'es pas d'être nous, je suis pas flic.
Je serai jamais celle qui, aux femmes, elle te harcèle. Seulement parce que tu réponds pas à mes appels.
Pas envie d'être en stress quand je vois tes SMS. Et dire à tous mes potes qu'avec toi c'est la hesse.
Je te propose de tuer le game sans mourir l'un pour l'autre. Personne prendra de balle ici, on compte pas les fautes.
Si au pire on s'aime plus, viens, on se le confesse. Quand y'a plus d'amour, y'a au moins la politesse.
Et le dialogue.
L'amour n'est pas fatal lors du schéma sociétal.
Oui, le dialogue.
Ouais, ouais.
C'est le dialogue.
C'est ça.
Oui, le dialogue. Ensemble, on compte pas les points. Ne soyons pas des gamins. On est là pour se faire du bien. Hein, hein.
Ce qui fait que ça marchera pas, c'est surtout la mauvaise foi. Notre couple n'est pas un combat. Ah, ah.
Maintenant que tu me le dis, j'aime bien ton copain Mehdi. Il pourrait venir dans notre lit.
Bien envie d'un plan à trois. Et avec lui, pourquoi pas? C'est notre vie, c'est notre contrat. Ah, ah.
Notre dialogue. Notre dia, notre dia, notre dia. Notre dialogue.
J'exprimerai mes émotions, je sais que t'es pas voyante.
Je demanderai pas si tu m'aimes toutes les minutes 30.
Même notre façon de chanter, on peut la remettre en question.
Pourquoi je dois minauder
et moi parler comme un con?
Vous êtes toujours sur Radio G 101.5 FM dans l'émission Ondes Positives et nous venons d'écouter Le Dialogue d'Alex Ramirez. Et on le disait en début d'émission, on va maintenant parler de prise de risque et de comment réagir en cas de possible exposition au VIH. Alors par exemple, lors d'un rapport sexuel à risque, alors on sait que c'est quelque chose qui peut arriver dans un contexte festif, Alors peut-être vous avez prévu de faire la fête pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, et on ne sait pas ce qui peut arriver, mais être bien informé et savoir comment réagir en cas de prise de risque, eh ben, ça peut être une bonne stratégie de réduction des risques.
Oui, effectivement, Florian, j'ai remarqué que dans les milieux associatifs ou institutionnels qui travaillent justement autour de la prévention en santé sexuelle ou alors en contexte festif, on entend souvent cette expression « stratégie de réduction des risques » ou alors « stratégie de RDR » comme on dit dans le jargon. Et est-ce que tu peux nous expliquer en fait de quoi il s'agit ?
Alors, le nom officiel, c'est « réduction des risques et des dommages ». Donc c'est celle qui est sanctuarisée dans la législation française, et à l'origine elle est née parmi les consommateurs et consommatrices de drogue par injection dans les années qui ont suivi le début de l'épidémie de sida, donc au tout début des années 90. Ça a mis un peu de temps, l'épidémie de sida c'est 83-84, et du coup la fin des années 80, mais la RDR elle arrive qu'en début des années 90, et c'est un concept anglo-saxon. Voilà, les Anglais sont toujours un peu en avance, et les Américains, en tout cas le monde anglo-saxon est toujours un peu en avance sur nous. Mais tant mieux, ils ont parfois des bonnes idées. Parfois moins, mais bon, ça c'est une autre histoire. Alors bien sûr, au début, c'était quelques personnes et associations qui se sont mobilisées pour donner aux personnes, aux usagers et usagères de drogue, les moyens de réduire les risques auxquels elles étaient exposées. Faire participer les usagers et usagères de drogue à leur propre prévention, faire évoluer les représentations sociales sur elles-mêmes, et puis surtout aussi sensibiliser les professionnels et améliorer les lois et dispositifs en place. Donc les RDR, c'est un peu ces quatre choses-là, en fait, tout ensemble. Et puis cette RDR, c'est aussi appliqué à la sexualité et aux prises de risque liées au VIH-SIDA. Alors, l'idée vraiment à retenir sur la RDR, c'est qu'en fait, ça permet à chacun et à chacune de trouver ses propres solutions face à un risque afin d'en réduire les dommages sur sa santé. Et c'est ainsi qu'en fait sont nés les préservatifs, les dépistages, la PrEP dont on a parlé il y a 15 jours. C'est des outils de prévention pour réduire les risques, et donc à chacun et à chacune de s'en saisir en fonction de son comportement et de ses habitudes de vie et de sexualité. Alors il y a dans la démarche de RDR une vraie participation des personnes, en individuel ou en collectif. On n'est pas en mode « mets la capote, fais comme ça, fais comme ci » et ça se passera très bien de façon catégorique. Parce qu'en fait, tous les moyens de prévention ne sont pas adaptés à tous et à toutes, malgré ce qu'on voudrait bien nous faire croire, d'abord par le discours général, un peu ambiant, par les médias, et puis aussi par certains politiques. C'est d'ailleurs pour ça que la RDR est aussi un combat politique. Rien n'est jamais acquis pour les personnes, leurs droits et leur santé. Quelques exemples comme ça, tout bêtes et récents. Les salles de consommation à moindre risque, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, peut-être sous un autre mot.
Salle de shoot.
Beaucoup plus péjoratif.
Voilà, c'est ça.
Salle de shoot, c'est vraiment les médias, ils emploient ça de façon très, 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 très régulière. Malheureusement, d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est très réducteur par rapport à l'intérêt des salles de consommation à moindre risque. Et en fait, c'est des lieux où les consommateurs et consommatrices de drogue peuvent s'injecter sous la supervision de professionnels de santé, d'associatifs aussi, afin de réduire les dommages sur leur santé et de le faire en fait de façon sûre. Et donc en fait, elles sont vraiment aujourd'hui attaquées de toutes parts. Il y a une salle qui s'est ouverte il y a quelques années maintenant à Paris, mais elle est souvent remise en question par les riverains et tout ça. À Strasbourg, une salle devait ouvrir aussi, et je suis pas sûr que ça se fasse. À Marseille, une salle devait aussi ouvrir, et le projet est arrêté parce que tout le monde crie « Ah, attends, ah, non,
non, ça va quoi. Faire venir tous ça les drogués, faire, etc. » Et c'est les voilà. Inciter, etc.
Tout
etc.
à fait. Même chose aussi pour la PrEP. Du coup, c'est un outil aussi de RDR par rapport au VIH, par rapport aux IST de façon indirecte. Mais qui pourrait très bien disparaître aussi en France si les changements de politique publique en santé, parce qu'une autre majorité plus réactionnaire arriverait au pouvoir en France, voilà, ça pourrait très bien arriver que la PrEP disparaisse en fait et soit plus du tout accessible en France.
Oui, et il y a une de ces stratégies de réduction des risques dont on aimerait parler justement aujourd'hui et qui doit être plus connue du plus grand nombre, c'est le traitement d'urgence contre le VIH. Alors moi, ça me fait un peu penser à la pilule du lendemain, qui est aussi très controversée d'ailleurs. En gros, il y a beaucoup de gens qui disent que le fait de pouvoir prendre un traitement VIH ou une pilule suite à une prise de risque, ça va inciter les gens à prendre des risques. Alors pour ma part, je pense que c'est Au contraire, ça nous rend acteurs et actrices de notre santé, surtout dans le cas de la sexualité, où on ne peut pas tout contrôler, le risque zéro n'existe pas. Et donc, bah, je sais pas, Florian, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi ça consiste le traitement d'urgence ?
Alors oui, en fait, le traitement d'urgence, ou TPE, c'est donc le traitement post-exposition qui est donné en général aux urgences, mais pas que, après un risque de transmission du VIH. Quand on a en fait eu le sentiment d'avoir pris un risque, et ben en fait on peut avoir accès au TPE, donc après l'exposition au risque de transmission du VIH.
Donc c'est juste après. C'est en fait l'idée, c'est de pas attendre pendant des semaines de se faire dépister. C'est juste après on y va, c'est ça en fait.
C'est ça. Donc, alors en fait c'est à destination des personnes séronégatives ou de celles qui connaissent pas leur statut sérologique. Puisque si vous êtes déjà séropositif, faut pas prendre de TPE du coup.
Bah, vous êtes sous traitement.
Voilà. Voilà. Alors ou pas, mais en tout cas.
Ou vous reprendre un traitement. Voilà.
C'est pas le TPE qui est pour ça du coup. Oui. Alors par contre, il faut le prendre. Alors dans les 4 heures. Le mieux, c'est vraiment dans les 4 heures, ou sinon maximum dans les 48 heures. Et en fait, ça empêche au virus, en gros, de s'installer dans l'organisme et ensuite de se développer en fait dans le corps de la personne.
Donc ça permet vraiment de ne pas avoir le VIH.
Tout à fait.
Voilà. Mais il faut vraiment aller agir vite. Et alors, on va où ?
Alors, le mieux, c'est d'aller. Alors bon, après, ça dépend du contexte et de la situation et de l'heure aussi. Alors, vous pouvez aller dans les CEGID, donc c'est les centres de dépistage gratuits, anonymes, par rapport au VIH et aux IST, notamment. On peut aller aussi dans les services de maladies infectieuses, donc dans les hôpitaux, ou sinon aux urgences, notamment le week-end et en soirée. Du coup, il y a que ça qui est ouvert. Donc, du coup, faut aller aux urgences et il faut vraiment dire que vous venez pour avoir accès au TPE parce qu'il y a eu prise de risque, sans forcément rentrer dans les détails tout de suite, mais en tout cas, ça vous verrez ça avec le médecin, mais il faut déjà passer en général la barrière du ou de la secrétaire qui demande pourquoi. Voilà, juste ça suffit en fait de dire il y a eu prise de risque par rapport au VIH et j'ai besoin d'avoir un accès au TPE.
Ça va, ils connaissent en fait, si on arrive et qu'on dit, ils connaissent quoi.
Dans la plupart des cas quand même, maintenant ils connaissent le TPE effectivement, oui.
Donc voilà, ils vont tout de suite nous rediriger.
Après, ça va dépendre des lieux. Après, il faut quand même pas trop rester dans la salle d'attente et du coup insister parfois quand même pour vraiment avoir accès tout de suite quoi. Parce ouais. Que, du coup, on l'a dit tout à l'heure, c'est 4 heures. Enfin, c'est vraiment 4 heures quoi, ou 48 heures, mais 48 heures c'est vraiment très 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 long pour le coup. Donc après, oui, il y a l'accès. Donc vous voyez un médecin forcément et il y a accès au TPE. Donc en fait, vous entrez vraiment dans un protocole de traitement, parce que c'est vraiment un traitement antirétroviral.
Mais est-ce que en fait ils vont peut-être nous interroger pour savoir s'il y a vraiment eu une prise de risque d'abord avant
oui,
de nous le prescrire?
Oui, 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 c'est ça. En fait, ils vont interroger sur les prises de risque et pour voir si le TPE est vraiment utile ou pas et adapté à la situation. Alors, le TPE est préconisé pour ces types de risques-là. Donc, je vais les lister. Donc, s'il y a eu pénétration non protégée par le préservatif, le TASP. Donc, le TASP, c'est le traitement des personnes séropositives, qui fait que les personnes séropositives sont indétectables. Donc, le virus ne peut pas être transmis. Donc, pas de protection par préservatif, par TASP ou par la PrEP aussi. C'est préconisé aussi en cas d'éjaculation dans la bouche lors d'une fellation non protégée, pareil, par le préservatif, le TASP ou la PrEP. En cas de saignement d'une partie du corps qui aurait été en contact avec la muqueuse, ou le sperme d'un partenaire dont on ne connaît pas le statut sérologique. Et puis sinon, en cas de doute en fait, sur l'efficacité du traitement TASP ou de la PrEP.
D'accord.
Dès qu'il y a un doute, dès qu'il y a une prise de risque ou un doute, il faut mieux aller aux urgences. Après, vous voyez avec le médecin les situations et les orientations à faire. Mais le mieux, c'est quand même d'y aller et de ne pas du tout attendre et de barjoter en plus, de dire « Oh là là, peut-être que j'ai pris un risque » et du coup d'attendre trop longtemps.
Vaut mieux y aller content. Pour rien et être rassuré.
Tout à fait.
Voilà. Ouais. Et est-ce que, bon, si on nous prescrit le TPE, est-ce que ça va être pris en charge par l'assurance maladie ?
Alors, c'est remboursé par la Sécurité sociale. À 100%.
À 100%.
Oui, oui, oui. C'est vraiment quelque chose de gratuit, du coup.
D'accord. Et ça dure combien de temps, en fait ? On va le prendre pendant combien de temps ?
Alors, en fait, comme c'est un vrai traitement, en fait, contre le VIH, en fait, ça dure un mois. Donc il y a vraiment une mise sous TPE dès la première consultation en fait, dès le départ il y a un dépistage VIH donc pour voir s'il n'y a pas le VIH, parce que si vous êtes déjà en fait séropositif, vous avez été contaminé sur une prise de risque
Qu'on le savait même pas d'ailleurs,
que vous le saviez pas, du coup, ça sera pas le TPE en fait qui sera adapté ici. Ce sera un traitement en fait, une mise sous traitement classique. Donc il y a une première consultation avec un dépistage, avec la mise sous traitement sous TPE. Et du coup, ensuite, il y a une deuxième consultation à 3 jours ou à 5 jours pour voir du coup la tolérance par rapport à ce médicament. Et puis après, il y a une troisième consultation au bout de 6 semaines. Donc ça fait 1 mois et demi. Il y a un test de VIH. Voilà. Et après, il y a encore une consultation au bout du 3e mois après le début. Donc là, le traitement, c'est vraiment 1 mois. Mais il y a vraiment 4 consultations et vraiment un suivi derrière. Par rapport à ça.
Pour vraiment s'assurer que c'est bon, on n'a pas le VIH, voilà.
Tout à fait. Et si vraiment vous balisez parce qu'il y a prise de risque, vous pouvez toujours appeler le numéro de téléphone SIDA Info Service, le numéro vert qui est gratuit aussi, c'est le 0800 840 800. Voilà, si vraiment il y a un doute, vous les appelez et eux aussi pourront vous orienter et vous dire la même chose que nous d'ailleurs.
D'accord, voilà. Eh bien, merci Florian pour toutes ces informations précieuses. Là, je pense que vous êtes bien outillés grâce à notre émission Kit de survie de temps des fêtes pour passer des fêtes plus sereines. Mais quand même, surtout, n'oubliez pas de vous amuser.
Et on se retrouve dans 15 jours pour continuer d'échanger autour de la santé sexuelle et de la prévention. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci Anima.
Merci Florian.
Et d'ici la prochaine émission, vous pouvez retrouver toutes les précédentes en podcast sur le site radio-g.fr, rubrique de l'émission Onde Positive. Et en attendant,
prenez soin de vous.
Et que tu veux te protéger, ou si tu ne sais pas, si tu ne sais plus, si je te dégoûte. Alors tu me dis que tu veux pas trop en dire sur ta vie, que tu m'en veux pas, mais qu'on n'est pas amis. Qu'on n'est pas amis alors que ça rime pas à grand chose de se parler, de s'écrire, d'échanger. Mais voilà, voilà moi, moi je me rappelle de ce jour-là. J'étais le magicien avec sa baguette magique qui transformait ses doigts en feu d'artifice. Je me dis que c'est pas possible que t'aies oublié ça. Même si c'est faux, même si tout était faux, même si je ne suis qu'un imposteur et que je le suis pour toujours.